Ce matin, c'est la paix avec Dieu. Et puis, il y a un beau texte, un texte super important, même je me sens pas tout à fait à la hauteur de parler d'un texte comme ça. C'est vraiment un texte fondateur qui parle de Jésus, qui il est et qu'est-ce qu'il a fait. Et c'est sûr, quand on a un texte important, c'est comme la fondation du chrétien. T'enlèves ce texte-là, t'as plus de christianisme. Qui Jésus est, son identité, qu'est-ce que Jésus a fait, son œuvre, c'est le cœur. C'est comme un médicament, là. L'ingrédient actif, si tu enlèves l'ingrédient actif, tu as juste le restant de la pilule. Là. C'est du... je ne sais pas c'est quoi, là, mais... oui, c'est ça, un placebo, merci. Fait que, et ce texte-là a souvent été attaqué. Interprété différemment. Donc, ça va être important pour nous de chercher à mieux le comprendre, de voir le problème là-dedans, puis d'avoir des solutions aussi au problème. Fait qu'on a du beau stock à matin. Fait que prions le Seigneur qui nous donne vraiment l'aide du Saint-Esprit pour en profiter. Seigneur grand Dieu, on se place devant toi et on veut demander ton aide. On veut ouvrir les saintes écritures et puis comprendre ce que tu as écrit, ce que tu veux nous dire et qu'on soit éclairé, qu'on soit guidé parce qu'on te le demande dans le nom puissant de Jésus. Amen. OK. Fait que je vous propose simplement de lire le texte et puis c'est un bon début. Donc, c'est dans... Hein, merci beaucoup. OK. On va lire. C'est dans Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 23. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant, ça marche plus, hein, là? En faisant, ça marche-tu? Oui. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et c'était pour ce verset-là que le texte avait été choisi avec Shalom, la paix avec Dieu, que là, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire apparaître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Fait que ce que je vous propose, c'est simplement de prendre petit bout, verset par verset, on va essayer de couvrir ça, puis de voir qu'est-ce que ça en dit. Fait que le Fils est l'image du Dieu invisible, ça commence de même. Et puis, l'idée, c'est que Dieu... Qui peut le voir? Personne. Personne ne peut le voir. Il y a un verset où est-ce que Dieu parlait à Moïse, l'Éternel dit, Yahweh, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Puis on sait, hein, au ciel, il y a des anges, des séraphins, qui ont 6 ailes. 2 pour voler, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour se couvrir la face. Donc, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Fait que là, pour se manifester, il fallait qu'il se mette en image, une image peut-être diminuée, mais une image fidèle. Ça dit dans Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Fait que le grand Dieu transcendant, qu'on ne peut pas voir, même qu'on peut difficilement concevoir, se manifeste par son image. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le texte nous dit ça. Et il y a d'autres passages qui viennent un peu appuyer, juste pour s'approprier là, cette notion-là. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. » Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Hey, c'est énorme, ça, de dire ça. Qui pourrait dire ça? Est-ce que Moïse aurait dit ça? Non. Élie, Jean-Baptiste, tu sais, c'était le plus grand de tous les hommes, Jean-Baptiste. Est-ce qu'il aurait dit, celui qui m'a vu a vu le Père? Et Jésus qui va dire ça. Moi, je trouve ça émouvant, mais avant, quand je ne croyais pas, c'était troublant. C'est qui cet individu-là, ce phénomène-là? C'est comme ça que je le concevais dans ma tête, un phénomène. Il faut que j'explique Jésus, qui s'en va dire des énormités comme ça. Celui qui m'a vu a vu le Père, en public. Même pas juste seul devant le miroir. OK? C'est... Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, c'est l'image du Dieu invisible. Puis, si on continue d'autres versets un petit peu pour compléter, pour assimiler cette vérité-là. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte? Ah, ouais, tu vois apparaître ce que la chose a imprimé. Ah oui, je vois, OK. Maintenant, je vois. Et la parole a été faite chair, elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. On pouvait enfin voir. On ne pouvait pas voir la gloire de Dieu, mais là, on peut la contempler. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Peut-être juste pour recadrer, là, le texte qu'on lit dans Colossiens, là, ça appartient à une lettre, un contexte, où est-ce que les gens... Il y avait beaucoup de philosophies. Je ne sais pas si vous vous souvenez des philosophies grecques. Il y avait des stoïciens. Il n'y a pas de Dieu là-dedans. Des épicuriens, il n'y a pas de Dieu là-dedans. Mais il y a les atomes. C'est lui, Épicure, qui a nommé ça, des atomes en premier. Des Pyrons, qui était un douteur. Il y en avait Aristote, puis tout. Mais c'était dans ce temps-là. L'Empire grec avait apporté toutes ces philosophies-là. Et eux autres étaient comme dans le courant, un petit peu. Puis il y avait Platon avait le Logos. Il y avait un Logos, lui aussi. Puis il y a le même mot. Fait que il y avait bien des idées. Où est-ce que ça relativisait Jésus? Oui, Jésus, c'est très bien. Mais il y a aussi autre chose. Il y a tout le reste. Et puis, Paul, ça l'inquiétait d'entendre dire ça. Tu sais, parce que Colosse, il avait jamais vu les Colossiens, ils avaient jamais rencontré, c'était Épaphras qui avait été évangélisé pendant que Paul évangélisait à Éphèse, ça l'avait rayonné dans toute l'Asie. Puis là, il y avait un chrétien qui avait été à Colosse, c'était une petite ville, mais il écrit cette lettre-là parce que c'était important, parce qu'il y avait un danger réel. Et c'était au sujet de l'identité de Jésus. Donc, les premiers versets, ça parle qui est Jésus vraiment. Pour recadrer, réenseigner, parce que c'est important. C'est ça, cette parole-là qui manifeste, là. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, puis l'image du Dieu invisible. Et là, jusqu'à date, peut-être que ça a de l'allure, mais la suite du verset pose problème. Et je vous dis, c'est ce verset-là que plein de groupes ont utilisé pour partir, justement, d'autres formes de pensée au sujet de Jésus. Parce que ça dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je ne sais pas si vous connaissez les Témoins de Jéhovah. Pour eux autres, Jésus, c'est la première création. Dieu a commencé par faire Jésus. C'était avant qu'il naisse, c'était qui? L'ange Gabriel. L'ange Michel, l'archange Michel. Un gros archange, mais c'était une création. Et par cette création-là, toutes les autres choses ont été faites. Fait que c'était le premier-né de toute la création. Et puis la Bible en parle de ça, tu sais, dans Jude, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, blablabla. Mais cette créature-là, ils disent, ben c'était ça Jésus, parce que c'est le premier-né de la création, puis celui qui peut lutter contre le diable, c'est l'archange Michel, donc ça devait être l'archange Michel, déduction. Et non, c'est sûr, ça pose problème. Peut-être je vous explique un petit peu. Il y a comme trois utilisations du mot « premier-né » dans la Bible. Fait que là, c'est bon de réfléchir à ça parce que est-ce que l'expression « premier-né » de toute la création indique une chronologie? Jésus, le premier, qui aurait été la première créature de la création, qui aurait créé toutes les autres. C'est ça la question. Parce que plusieurs pensent ça. Là, j'ai nommé les Témoins de Jéhovah, mais il y en a bien d'autres. Les Sociniens, les Christadelphiens, mais il y en a qui sont ici à Trois-Rivières. Arius, ben ça a commencé avec lui, il n'est plus ici à Trois-Rivières, là, mais Arius d'Alexandrie, que Jésus n'était pas coéternel avec Dieu le Père, mais il aurait plutôt été créé avant le début du temps. Je ne sais pas ce que c'est avant le début du temps, mais c'est ce qu'il disait. Il a été condamné, M. Arius, pour hérésie au Concile de Nicée, le premier grand concile, en 325. De dire, non, c'est pas ça, Arius. Et c'est pas que le texte là, qu'on va voir ce matin dit pas ce que ça dit, là, mais il y a d'autres textes aussi. Mais on va essayer aussi de voir comment le texte... Enfin, juste pour dire que c'est pas nouveau, là, cette confusion-là, pour certains. L'islam vient remettre en cause l'identité de Jésus. C'était un prophète. C'était un grand prophète. C'était une créature, mais c'était même pas par lui que tout le reste a été créé. C'était juste un homme. Et puis là, le texte, c'est pas ça. Et là, c'est de mettre du sens dans tout ça. C'est ça que j'aimerais ce matin. C'est pour ça que c'est important. Et puis même dans l'islam, on dit il nie son identité de fils de Dieu et il nie son œuvre. Ils ne l'ont pas crucifié. Tu sais, en parlant des Juifs, ça dit, il y a une sourate, un ayah qui dit ça, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, c'était un faux semblant. Bon. Fait que là, justement, c'est pour rectifier, puis débattre ce genre de pensée-là, puis nous orienter dans tout ça. Donc, on a l'islam. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus connue sous le nom des Mormons, que Jésus était un homme comme nous qui a été élevé au rang de la divinité. Les hommes peuvent devenir des dieux, mais Dieu ne peut pas devenir un homme, non. Et puis, tel que je suis, en parlant de Dieu, j'ai, tel que vous, moi j'étais comme vous, puis un jour vous serez comme moi. OK. C'est la doctrine. Et puis, les églises pentecôtistes unies, on en a une ici à Trois-Rivières aussi. On est bien représentés. Elles sont unies parce que c'est unitarien, je pense qu'on dit, et non trinitaire. Il n'y en a pas trois personnes en un seul Dieu. Il y a juste un Dieu composé d'une seule personne. Donc, il y a du monde, là, et puis ça, et c'est sur ce verset-là que ça pose problème. Fait que regardons-le. Bon, il y a ce verset-là, puis d'autres problèmes. D'autres versets aussi, là, mais on va quand même regarder. Dans la Bible, ben, réfléchissons, il y a trois sens, trois applications. Puis c'est pas mystérieux, là, je vous les explique. Si on dit, il y a un premier sens qui est littéral. Si je dis Christ est le premier enfant à qui Marie donna naissance. Ben, c'est le premier dans le temps, dans la chronologie, puis soi-disant, il y en aurait eu d'autres. Fait que ça, c'est le sens littéral de premier-né. Mais il y a un autre sens qui est au sens figuré, comme Israël est mon fils, mon premier-né. Israël, c'était le deuxième. Ésaü, c'était le premier-né. Maintenant, il l'appelle mon premier-né. Puis Israël, c'était devenu un peuple. Un peuple, ça n'est pas vraiment. Mais là, c'est au sens figuré. Puis il y a un troisième sens, encore peut-être plus symbolique. C'était, on retrouve ça dans le psaume 89, 28. Donc, c'est dans la Bible. C'est une façon. C'est pas parce que nous, on n'a pas cette façon-là de comprendre le mot premier-né qu'eux autres l'avaient pas. Fait que là, il faut comprendre comment eux comprenaient le texte. Donc, l'expression « premier-né » désigne un caractère de supériorité, de suprématie, de particularité. Fait que là, le psaume 89, ça dit « Et moi, je ferai de lui, en parlant de David, le premier-né, c'est-à-dire le plus élevé des rois de la terre. » David, est-ce que c'était le premier-né de sa famille? C'était le dernier de la famille. Mais je peux pas, si c'est vraiment ça, au sens littéral, je peux pas changer l'ordre. C'est un fait dans le temps que donc il était pas le premier-né. Désolé, là. Je peux pas le faire. Je ferai de lui le premier-né. Mais je peux le faire le plus grand, par contre, des rois de la terre. Qu'est-ce qu'il va devenir? Et c'était ça qui est arrivé. David va avoir la supériorité. Oups, il y a un malaise. Peut-être qu'on devrait... Madame... Madame Caron. Si on priait pour elle. Hein? Seigneur Dieu, on se place devant toi pour prier pour Madame Caron, que tu puisses mettre ta main sur elle, la restaurer, la fortifier et nous garder tous dans ta paix. On te prie dans le nom de Jésus. Amen. OK. Donc, ici, il y a une façon d'utiliser le mot premier-né qui est pas littéral, qui est au sens symbolique, de dire « je vais te faire le top, le plus grand, le plus élevé des rois de la terre. » Et là, on peut très bien comprendre l'expression premier-né dans le passage ici. Le premier-né de toute la création, c'est celui qui a la suprématie, la prééminence, la souveraineté sur toute la création. Et là, ça fait plus de sens, ça devient plus moins difficile à comprendre. Si on continue. Ici, on voit justement dans la création, les créatures peut-être les plus puissantes, les plus élevées, c'est les anges. On voit dans Hébreu, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, le plus élevé, il dit que tous les anges l'adorent. Fait que les plus grands dans toute la création, qu'ils adorent Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la supériorité. Et donc, ça vient encore là, ça utilise le mot premier-né, ça vient expliquer que c'est pas lui qui est né en premier, après ça que tout aurait été créé par lui, c'est que lui a la présidence ou la supériorité surtout, de sorte que même les anges l'adorent. Et c'est quand même spécial, tu sais, les anges qui se prosternent, il me semble... Les anges devraient adorer Dieu. Les anges, quand quelqu'un se prosternait devant eux, « Ben non, Jean, relève-toi, je suis seulement un compagnon. » Adore Dieu, qui disait. Mais là, qu'est-ce qu'ils font à adorer une créature, si c'était une créature? Vous voyez un peu, la, juste pour être cohérent dans l'ensemble du texte. Et donc, ça souligne l'importance là, de... comprendre l'identité de Jésus. Paul parlait aux Colossiens pour dire, attention, Jésus, c'est pas un parmi d'autres. C'est pas même un très grand parmi d'autres. Jésus, c'est le... c'est l'image du Dieu invisible. Et là, il va en rajouter. Et puis, c'est sûr que c'est ça, c'est étourdissant un peu de dire, ta minute, Jésus, c'était Dieu matérialisé dans une personne humaine. Et que là, lui est venu et qui est mort sur la croix pour moi. C'est quand même gros à avaler. Puis je le reconnais, ça, que c'est une grande vérité. C'est impressionnant. Mais assimilons, là, justement, cette grande vérité-là. Et puis, on pourrait se demander... si quelqu'un ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu fait homme, mais qui croit que Jésus est mort à la croix. « Ouais, ça, je sais, je suis pécheur, Jésus mort à la croix pour mes péchés, mais c'était juste un homme. » Est-ce que au dernier jugement, est-ce que ça va passer? Est-ce qu'il est sauvé, cette personne-là? J'y crois à Jésus, mais c'était un grand prophète. C'était pas Dieu fait homme. Comment tu juges ça? Alain me fait signe, non. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire ça? Mais moi, je ne suis pas le juge, puis c'est pas moi, puis je suis content de ne pas être le juge, c'est pas moi à mettre des personnes au ciel ou en enfer. Bon. Je n'ai pas cette tâche-là. Mais le vrai juge, là, qui va être justement Jésus, on pourrait lui dire qu'est-ce que lui pense, le juge final. Dans Jean 5, verset 22, ça dit, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Ici, on voit les anges qui adorent le premier-né, ils honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et Jésus dit, c'est moi qui vais juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Regardez la suite. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et c'est comme une rébellion envers le Père. Non. Jésus, c'est pas Dieu fait homme. Mais le Père dit, mais écoute donc, toi, pour qui tu te prends? Tu es en rébellion contre ce que j'ai dit, contre ce que je manifeste, contre ce que j'ai annoncé dans l'Ancien Testament, et que le Messie serait un être divin, celui qui aura la domination éternelle. Quelle sorte de prophète ou d'homme aura une domination éternelle? Fait que, oui, c'est une grosse vérité à avaler, à concevoir, mais Jésus dit, c'est ça, qu'on honore le Fils comme on honore le Père. Aucun prophète aurait affirmé ça. Aucun ange aurait affirmé ça. Et Jésus le dit. Et si on continue même sur l'importance de comprendre, d'accepter l'identité de Jésus pour le salut. Dans Jean 8, 24, on lit, « C'est pourquoi je vous ai dit, que vous mourrez dans vos péchés. » Il parlait aux pharisiens. « Car si vous ne croyez pas ce que je suis, » même le « seuil » n'est pas dans le texte, « si vous ne croyez pas que je suis, » vous mourrez dans vos péchés. Et ce « je suis-là », hein, parce que le Yahweh, là, l'Éternel, c'était justement l'expression que Dieu, dans le buisson ardent, avait utilisée pour se nommer. Moïse avait dit, « Oui, mais c'est quoi ton nom, tu sais, quand ils me diront qui m'a envoyé, puis tout ça. » Mais tu lui diras que c'est « je suis » qui t'a envoyé. Et là, Jésus utilisait cette expression-là, « je suis » encore. Un autre exemple un peu plus loin. Puis là, les Juifs ont bien saisi là, qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça qu'ils ont pris des pierres, okay, on arrête de parler, toi, on veut te lapider. Ils comprenaient, tu sais, toi qui es un homme, tu te prends pour Dieu. Il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Puis là, il prend le nom de Dieu. Si c'était une créature, il y aurait dit quoi? Avant qu'Abraham fût, j'étais, ou j'ai commencé à être, parce que j'étais la première créature qui a été créée. Et parmi elles, comme les témoins de Jéhovah disent, tout le reste a été créé. Non. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis tout le temps. Je suis d'éternité. OK. C'est ça. Jésus réclame cette position-là. Si c'est pas vrai, c'est pas juste un grand prophète, c'est un monstre. Et nos Bibles, faut les brûler. Parce que c'est scandaleux. Ça dit des mensonges au nom de Dieu. C'est méchant, c'est immoral. Si c'est pas vrai. Et si c'est vrai, là, comme les anges qui l'adorent, que nous aussi, qu'on vienne l'adorer, que c'est tellement grand, c'est tellement beau, que Dieu se soit fait homme. Souvent, en parlant de ça, tu sais, je prends comme l'expression, parce qu'il y en a qui disent, mais Dieu peut pas faire ça, voyons, ça serait déshonorant pour lui. Tu prends une Lamborghini, elle peut faire du 400 km/h, mais il n'y a rien qui l'empêche d'aller à 10 km/h aussi, si le conducteur veut, est capable de le faire. Si Dieu veut se faire homme, qui suis-je pour dire à Dieu ce qu'il est capable et pas capable de faire? Si tu décides de faire homme, bonne idée, j'ai rien à dire. Moi, je te trouve bien correct tout le temps. C'est ton choix. Puis tu es capable, ben oui, tu es capable. Je peux pas dire à Dieu qu'il est pas capable de faire quelque chose. Donc, et là, il y a comme d'autres objections, rapidement, parce qu'on en parle du sujet, juste pour me rapprocher, mais moi, j'ai jusqu'à 11h, c'est ça? Ça n'a pas l'air de vous troubler. On va dire jusqu'à midi, non? Non, mais il y a d'autres objections au sujet de la divinité. Parlons-en parce qu'on est dedans et puis ça va nous équiper un peu plus face à l'adversité parce qu'il y en a plusieurs adversaires. Même, je me souviens, dans un café philo avec des non-chrétiens, « Est-ce que vous croyez en Jésus? »« Ah, ouais, je crois en Jésus » puis tout ça. Puis là, un des smats là-bas, il dit « Oui, mais comme fils de Dieu. » Là, tout le monde s'est rassis. « Ah, non, pas comme fils de Dieu. » Mais non. Et puis... ça a fait un bel échange, là, mais... Mais le genre d'objection, c'est comment Dieu peut-il être vulnérable comme un enfant nouveau-né? Voyons donc, c'est pas raisonnable. Comment Dieu peut-il avoir faim ou être fatigué? C'est Dieu. Il peut pas. Voyons. Pourquoi Jésus affirme que le Père est plus grand que moi? Bon, tu vois bien, là. Pas assez clair, parce que ça aussi, c'est des versets que Arius utilisait, que toutes l'autre gang, là, les témoins de Jéhovah, les unitariens, on peut les entendre sur Internet, puis ils expliquent bien leur affaire. Pourquoi Jésus manque de connaissance pour ce qui est du jour ou de l'heure? Personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Pourquoi Jésus prie? Je me prie, pourquoi je me suis abandonné? Hein? Souvent, les musulmans, ils sortent la joke comme ça, tu sais. Il est sur la croix, tu sais. Moi, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi me suis-je abandonné? C'est ça qu'il disait. Non. Mais il y a une raison dans tout ça, c'est que Dieu, quand il s'est manifesté sous la forme du Fils, matérialisé sur terre pour être l'image qu'on peut voir, l'image du Dieu invisible, s'était dépouillé de plusieurs éléments de ses pouvoirs, pour qu'on puisse le regarder. Et puis ça dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. » C'est assez clair quand même. N'a point regardé son égalité avec Dieu, comme une proie arrachée. C'est à moi ça, je veux le garder. Mais il s'est dépouillé lui-même. Fait qu'il a renoncé à des pouvoirs, à des connaissances, à des capacités, puis il priait. Ben là, moi, je vais vivre comme un homme, puis les hommes vont voir comment est-ce que c'est de vivre dans la dépendance. Fait que le matin, il priait. Montre-moi, guide-moi. Puis il recevait des connaissances, des paroles de connaissances, des choses qu'il devait faire. Mais il dit, moi, je viens ici, là, comme vous autres, comme les hommes, je dépends du Père. Puis là, il montre des choses à faire. Puis vous autres aussi, la même dépendance, faites-le, puis il va vous montrer. Mais je ne suis pas venu avec tout mon arsenal de pouvoir. Ce que je faisais, c'est que c'est le Père qui m'a donné la capacité. C'est dépouiller lui-même. C'est donc ça l'idée. Le pourquoi, là, toutes les pourquoi qu'on a vus, c'est que c'était dépouillé. Et si ce n'était pas dépouillé, bien, sa présence aurait été écrasante, aurait été intolérable, comme celle nul ne peut voir Dieu et vivre. Et on voit dans l'Apocalypse comme il commence à se manifester dans sa puissance. Oh boy, les gens s'écrasent. Jean, l'apôtre Jean, c'est ça, devant une telle gloire. Et là, donc, c'est dépouillé de cette gloire-là, qui n'était pas aussi apparente, s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Et bien là, toutes ces affaires-là, c'était comme intentionnel, parce que les gens, dans le temps, les gnostiques, ces philosophes-là, là, ils disaient non, l'existence physique, corporelle, ça c'est impur, c'est pas bon, c'est pas correct. Puis Dieu ne pourrait pas venir. Puis là, Paul, il dit non. Ça, l'existence corporelle, c'était pas mauvais, c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Et puis, il a pu descendre, justement, dans la forme comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. S'est humilié, c'est justement ça, de toute la gloire qu'il possédait, qui s'en est départi et humilié. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, pourquoi j'explique tout ça? C'est que, on résume, il y a des courants de pensée qui nient la divinité de Jésus. Et je peux les comprendre et sympathiser parce que ça heurte notre compréhension. La Trinité même, OK, c'est pas intuitif, mais c'est biblique. Et c'est comme si l'esprit, l'intellect humain se plie à ce que Dieu révèle. Tu as dit ça, c'est beau, tu as dit ça. Et tu l'as dit clairement, on vérifie bien. Ben oui, mais c'est clair, c'est ça, c'est... Ben moi je c'est correct. Jésus, il en a trop dit pour être un simple homme. Si c'était juste un simple homme, là, il fallait qu'on fasse un clean-up, comme je disais. Et puis, c'est un monstre. Mais si c'est vrai, c'est vraiment majestueux et énorme. Et à recevoir. Et puis... J'avais une citation de C.T. Studd, justement, en rapport avec ça, mais on va y revenir. Là. Mais continuons, on était au verset 15, on arrive au verset 16. Ça va aller plus vite. « Car en lui ont été créées toutes les choses. » Si c'était la première des créatures, il aurait dit « En lui, en Jésus, ont été créées toutes les autres choses. » Parce que moi, je ne me suis pas créé. Ça se fait pas, là. Ce n'est pas logique. Une chose qui n'existe pas encore ne peut pas se donner l'essence. Je ne peux pas m'accoucher. Ça fait qu'il aurait dit, aurait été créé toutes les choses. Et c'est ça, là, tu sais ça. Sur l'identité de Jésus, C.T. Studd, C'était dans les années 1800. C'était un athlète d'élite, incroyable. Tu sais, il y a le cricket aux en Angleterre. Puis c'était un champion. Puis le monde l'aimait bien gros. En plus de ça, c'était pas de sa faute. Il était millionnaire. Son père était super riche. Et puis, mais quand il a compris l'identité de Jésus, quand il s'est converti, quand il l'a mis en premier, il y a eu des incidences, des conséquences, cette compréhension-là. Il avait dit, « If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. » Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, aucun sacrifice que je puisse lui offrir ne peut être trop grand. Et il a été missionnaire en Chine, aux Indes et en Afrique. Et puis, on le voit là, à la fin de sa vie, là, il a tout donné. Ces millions, c'était dans le temps de George Mueller, les orphelins là. Ah ouais, des gros chèques, puis tout ça. Il a tout donné sa fortune. Pis ça valait cher dans le temps. Mais c'était, il n'y avait rien de trop beau. Parce que quand on conçoit, quand on reçoit cette grande vérité-là, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, bien, tu sais, c'est incroyable. Il n'y a rien de plus beau que ça, il n'y a rien de plus grand que ça, que son Fils unique, Dieu fait homme, ait porté nos fautes pour qu'on soit réconciliés, qu'on soit adoptés comme ses propres enfants, qu'on soit tellement purifié qu'il puisse déposer en nous le Saint-Esprit, la personne même de Dieu. Il n'y a plus de barrière. Et puis, il faut comme se laisser désarmer par cette vérité-là. De dire, OK, tu mérites tout, comme les anges qui l'adorent. Fait que je trouve ça énorme et grand et beau et c'est une vérité qu'on doit défendre et protéger. Et ça dit que tout a été créé pour lui. C'est même pas pour Dieu le Père, non, c'était pour lui. OK? Fait que là, car en lui, en Jésus, ont été créées toutes choses, les visibles, les invisibles. Les invisibles, ça c'est les anges. Fait que justement, l'archange Michel en question, c'est sa créature à Jésus. Les choses invisibles ont été créées par Jésus. Je suis en train de pointer sur la télé. Tout a été créé par lui et pour lui. Pour Jésus. Le but, la raison d'être, c'est pour l'honneur de Jésus. Ah, ouais. Mais il me semble que ça me dit quelque chose, ça, ces expressions-là. Bien, d'abord, dans la Genèse, qui a créé la terre et le ciel et les arbres et les plantes et les poissons et l'être humain? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est ça? Mais là, on voit qu'on attribue ça. T'sais, là ça fait exploser toutes les fausses doctrines des témoins de Jéhovah et tout ça. Mais non, c'était Dieu. Mais là, Dieu, ici, regarde dans ta Bible, c'est écrit que c'est Jésus qui a créé. Donc, Jésus, c'était Dieu. Vous voyez, la force de la logique, puis de, quand on gratte un peu, on dit non, ça marche pas, là. Ces autres pensées-là, et dans Romains, on... « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science, de qui? De Dieu. » Fait qu'on parle de Dieu. « Que ses jugements sont insondables, car qui a connu la pensée du Seigneur? » On parle de Dieu. « C'est de lui. » Par lui et pour lui que sont toutes choses. Ben, c'est-tu pour Jésus ou c'est pour Dieu? Ben, c'est la même chose. Ben, là, je comprends pas. Mais c'est pas grave, fais-toi-en pas. C'est pas parce que les limites de mon intellect n'arrivent pas à tout englober ça, puis à réduire la personne de Dieu à ma petite boîte, à la capacité de ma petite boîte crânienne, qu'il ne peut pas être autrement. Il peut dépasser ma capacité de conception. Mais on voit ici que, donc, c'est pas moi, mais la Bible elle-même attribue à Dieu le Créateur, attribue la création, attribue que toutes choses sont pour Dieu le Père. Oui, c'est ça j'ai mentionné. Un autre hébreu, ça dit la même chose. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, de qui? Mais c'était de Dieu dont on parle et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Fait que c'est Dieu lui-même qui dit que c'est pour, que tout est par Dieu et pour Dieu. Mais on vient de dire dans notre texte que c'est Jésus. Mais oui, mais c'est ça. Donc, Jésus s'attribue, Paul attribue la divinité. Et puis, c'est ça, c'est grand. Dans Jean 1, 3, tu sais, c'est encore là, la même idée. Au commencement était la parole était avec Dieu. En parlant de Jésus, était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Donc, ça parle de la divinité de la parole. C'est clair. C'est pour ça que c'est tellement trop clair que les témoins de Jéhovah ont dû changer le texte. Et quand on leur demande c'est qui le comité de traduction, ah non. On l'a jamais su. Puis sur quelle évidence que vous êtes les seuls à traduire la Bible comme ça? Ah là. Oui, OK. Ben, tu sais, c'est votre choix. Mais c'est pas ça que l'hébreu dit. Elle était au commencement, la parole avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Là, j'en mets peut-être un petit peu trop. Là, je vais accélérer parce que je pense que vous catchez l'idée. Encore là, ici, là, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Encore là, tu sais, il aurait dit, il est avant toute autre chose parce que lui, il était la première des créatures. J'accélère, là, ça parle de subsister. C'est quand même fort, ça, que l'univers subsiste en Jésus. Que si, ça dit quelque part, c'était dans Job, s'il retenait son souffle, toute chair expirerait ensemble. Je vais essayer de le retrouver parce que je ne l'avais pas mis sur ça. Que c'est lui qui soutient tout l'univers. C'est énorme. J'accélère. Il est la tête du corps. Le corps, c'est l'Église. Donc, chacun est un membre, une articulation, un petit doigt, les yeux, un nez. Chacun a ses dons, ses capacités, ça donne un respect, une dignité à chacun. Chacun a un rôle à jouer. Si tu es dans le corps ici, juste comme spectateur, on a besoin de toi, que tu t'impliques. On a besoin de tes dons, de tes capacités. Chacun a à s'épanouir dans le corps aussi, s'exercer. Sinon, ça devient un muscle ankylosé, paralysé, malade. On a besoin de que toi aussi tu grandisses, que tu t'exerces et que tu serves. Donc, et ça se termine ici, d'être en tout le premier, c'est l'idée en général. On voit que ça se contredit pas avec pour l'idée du premier-né. Dans Actes, on lit « Savoir que Christ souffrirait et que ressusciter le premier » d'entre les morts, parce que l'expression ici, c'est le premier-né d'entre les morts. Mais Jésus, ben, il y en a eu d'autres résurrections avant Jésus, hein? Mais ils sont décédés par la suite. C'est pas des résurrections avec un corps glorieux. Jésus était le premier à ressusciter avec un corps incorruptible, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Fait que là, il parle encore aux Colossiens. Puis il est encore en train de les coacher, de dire, non, c'est pas Jésus, c'est comme une étape vers quelque chose de plus grand encore. Mais c'est merveilleux, continuez avec Jésus, mais il y a plus grand encore. Non, il n'y a pas plus grand. Jésus, ce n'est pas un moyen ou une étape sur la route. Jésus, c'est la destination, c'est la fin à laquelle qu'on cherche. Même dans Colossiens, puis on voit encore là le contexte, c'est là qu'il va parler des philosophies, fait que c'est juste un petit peu plus loin, quelques versets plus loin, il dit « Prenez garde que personne, tu sais, après avoir tout dit ça, fait que faites bien attention, ok? Là, après ce que je vous ai dit, là, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes. » Les hommes peuvent avoir des bonnes idées, faut pas tout mettre à poubelle. La science, je pense que c'est bon. Mais quand les traditions des hommes contredisent ce que Dieu a dit, ben, gardez vos idées, là, je préfère m'en tenir à ce que Dieu a dit. Fait que là, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des principes élémentaires du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est une autre énormité, ça. Ah oui, en Jésus, si c'est un homme, voyons donc, tu pourrais-tu dire ça d'un prophète? En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce serait trop. Je continue. On est rendu au verset 19 et puis on va tomber dans... qui devient tout en tous, on va tomber dans l'œuvre de Jésus. Comme je vous disais au départ, il va parler de l'identité de Jésus, qui il est et quelle est son œuvre. Deux choses capitales, importantes, sans lesquelles on n'a pas de christianisme. Il a voulu tout réconcilier par lui. Par lui, tout réconcilier avec lui-même. C'est quand même spécial, c'est que là, c'est pas juste réconcilier avec Dieu, c'est réconcilier avec lui, Jésus. Il prend une place encore là qui appartient à Dieu. Il a voulu tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et là, il faut se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'être réconcilié? Il a voulu réconcilier. Il y en a qui n'ont pas voulu réconcilier. Mais lui, il a voulu. Il a voulu par lui tout réconcilier. Ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, c'est comme la création aussi, pas juste les êtres humains, mais la création soupire, souffre depuis que les hommes, que le péché est rentré dans le monde. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bon, finalement, on va être libérés de tout ça. La corruption, le péché, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Elle aussi a besoin donc d'être réconciliée. Et nous aussi, on a besoin d'être réconciliés. Ça dit, et vous, là, il parle aux Colossiens, vous étiez autrefois étrangers et ennemis. As-tu été un temps étranger et ennemi? En faisant des rencontres là avec des non-chrétiens, avec l'Association des fermiers chrétiens, un petit plug de même, là, ça va recommencer. Si vous voulez faire de l'évangélisation, il y a plein de non-chrétiens. On rencontre, c'était eu 9000 personnes l'année passée dans 4 événements. Puis c'est comme du gâteau. Les gens viennent à nous, on donne un petit cadeau. Le texte, le message est facile. Puis après ça, si la personne le veut, il y a une discussion qui s'ensuit. Je vous encourage. Mais en rencontrant, c'est ce que j'allais dire, là, des personnes comme ça, je m'aperçois, ceux qui ne sont pas vraiment proches de Dieu, ils ne sentent pas le besoin d'être réconciliés. Ah, je vois-tu parler, moi, tu vois, ouais, c'est mon chum, puis tout ça, puis... Puis toutes leurs pensées, hein, parce qu'on était ennemis par nos pensées. Puis moi aussi, je ne réalisais pas qu'avant de devenir chrétien, à quel point je pouvais être un ennemi de Dieu, à quel point je pouvais être rebelle contre sa seigneurie. Je me pensais correct. Celui qui m'a annoncé Seigneur était déçu parce que non, je ne suis pas pécheur. Mais je n'avais pas cette compréhension-là. Et inversement, plus que la personne s'approche de Dieu dans sa connaissance, elle dit non, moi, je ne serais pas capable. Moi, je ne peux pas. Je ne pourrais pas être dans sa présence puis chanter juste de même. Elle a comme pris conscience de ses pensées, de ses paroles, de ses actions, de ses omissions. Non, Dieu est majestueux, Dieu est saint. Si j'étais dans sa présence, je déshonorerais sa majesté. Et là, le texte nous révèle qu'autrefois, on était étrangers et ennemis. Et pourquoi je dis ça, dans le fond, c'est pour faire un appel. Pense-y. Est-ce que tu as besoin d'être réconcilié? Si tu n'as jamais eu besoin... Ben moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, puis il me semble que j'étais tout le temps correct, je priais, puis j'allais à l'école du dimanche, et puis je lisais même ma Bible, puis je connaissais... J'étais le meilleur dans ma classe pour connaître les versets, puis c'est quoi le problème? Ah oui, mais il y a quand même un problème. Et tu dois être convaincu, c'est l'Esprit qui convainc de péché, qui doit nous révéler. Et là, quand on nous révèle, puis on prend conscience de la corruption intérieure, là, tout d'un coup, OK, je pense que j'ai besoin d'un sauveur. OK? C'était quoi encore que tu disais? Ah ouais, amen. C'est vite, ça presse. J'ai besoin d'aide. Autrement, je n'avais pas besoin d'aide. Mais là, et donc de prendre conscience de ça par nos pensées, une pensée d'indépendance. Là, je ne veux pas que personne me dise quoi. Même pas Dieu. OK? C'est moi qui vais décider, là. Ça, c'est une pensée de rébellion, si on l'appelle par son nom. C'est offensant. Toi, ça ne te dérange pas. C'est comme si je pèse sur l'orteil d'un gars. Moi, ça ne me dérange pas. Je me sens tout à fait... Mais lui, ça le dérange. Et ça, nos pensées le dérangent. Ah, il faut allumer. C'est « Ah, OK, je ne savais pas que ça te dérangeait à ce point-là. » Ben oui. Ça adonne que c'est lui le premier-né, là, le gros boss, le top. OK, bon, j'ai un problème. Bravo, là, on avance, parce que si on a un problème, on va être réceptif à la solution. Donc, on était étrangers et ennemis par nos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair. Ce qui nous réconcilie, là, c'est des fois en parlant avec les gens, tu sais, pourquoi Jésus est venu? Ben, il est venu, c'était pour nous donner un bon exemple. Aimez-vous les uns les autres, c'est ça la religion chrétienne. Faites comme, allez et aimez-vous les uns les autres. Ben, oui, c'est vrai qu'il a dit ça, mais il y avait son heure. Mon heure n'est pas encore venue. Puis là, mon heure est venue, puis son heure. Puis souvent, cinq fois, il disait, le Fils de l'homme doit aller à Jérusalem pour son heure, OK? Ou est-ce qu'il va souffrir aux mains des païens, puis être mis à mort, puis ressusciter, puis tout ça. Et son but, c'était réconcilier par sa mort. C'est sa mort qui, lui, c'est ça qu'on... À Pâques, hein? Pâques, dans deux semaines, on va fêter sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce que ça représente, Pâques, la Pâques juive? Hein? C'était quoi la Pâque juive que Jésus a utilisé la date de la Pâque juive pour faire sa Pâque à lui? Ça représente quoi? Ou est-ce que c'était la dixième plaie d'Égypte? Il y avait l'ange destructeur qui allait passer et que le premier-né, du plus grand jusqu'au plus petit, jusqu'à la servante qui moule le grain, et même des animaux, allaient mourir. Et il avait dit, vous les Israélites, si vous voulez... est épargné, prenez un agneau sans défaut, sans tâche. Immolez-le cette journée-là. Prenez son sang, mettez-le bien en évidence, pas pour vous, mais Dieu va le voir et l'ange rectuteur va le voir. Mais moi, je ne sens pas que le sang va me protéger. C'est pas, faut pas le sentir. Pour Dieu, c'est efficace, ce sang-là. Et l'ange destructeur... il Passover. C'est ça. En anglais, on dit la Passover. Mais là, il passait par-dessus ces maisons-là. C'est ça que ça veut dire, Pâques. Passer par-dessus. Et Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est mort ce temps-là pour que ceux qui sont dans cette... le mettre sur leur maison, sur leur identité, sur leur personne, se réclament de ce sang-là, que l'ange destructeur puisse passer par-dessus. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. C'est pas beau, ça? Et c'est ça, là, en mettant là, les deux notions de Jésus, Dieu fait homme, qui vient et qui fait tout ça pour nous. C'est immense, c'est glorieux. Et comme je le disais, les anges désirent l'adorer. Et combien plus nous? Nous, on a bien plus à adorer qu'un ange. Jésus n'est pas mort pour les anges. Jésus est mort pour des gens comme nous. Et on peut s'aimer les uns les autres parce que même la personne avec laquelle tu n'as pas d'attirance d'atomes crochus, Jésus est mort pour elle, pareil. Fait que pour l'amour de Jésus, pour l'amour de Dieu, tu vas l'aimer. Puis il n'y aura pas d'obstacle, il n'y aura pas de limite. Et ça nous donne une espérance. Tu sais, je regarde mes amis non-croyants. Tu sais, plusieurs qui vieillissent aussi, tu sais, qui me disent les arrangements, l'aide médicale à mourir, puis tout le kit. Parce pourquoi? Parce que tant que tu es jeune puis que ça va bien, tu es en santé, tu es fort, tu es intelligent, tu as tout. Mais quand tu vieillis, tu perds tout. Ton intelligence, ton corps, ta flexibilité, ta mémoire. Puis là, tu souffres. Puis là, la vie, ça n'a pas de sens. Parce que tu ne vivais que pour cette vie-là. Mais quand tu as une espérance vivante, hey, le Dieu lui-même a donné son Fils pour moi. Il m'aime, il m'attend, je vais préparer une place pour vous. OK, là, ça donne la joie, la paix, puis une espérance, on a une espérance vivante. Et là, c'est ça qu'il dit, là, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Donc, j'ai encore quelques minutes, là, mais si on récapitule, là, parce que c'est un peu la conclusion, ce verset-là, pour vous faire paraître devant lui saint. Et là, ça aussi, ça a l'air trop gros, oui, on donne saint. Tu sais, Saint-Michel. Ça a l'air bizarre, mais... non, mais... qu'on soit des saints, puis dans l'Église populaire, on sait, tu sais, premièrement, un saint, il fallait que tu sois mort. Mais là, il écrivait à des gens qui vivaient. Il fallait que tu aies fait des miracles, il fallait que tu te sois démontré par une vie... Mais c'est pas ce que la Bible nous dit. Quand Jésus est mort pour nous, qui a effacé, porté nos péchés à la croix, nos péchés ont été payés. Enlevé. Voici mon sang livré pour vous en rémission des péchés. Vos péchés vous sont remis. C'est fini. On n'en parle plus. Tout est accompli. Ben là, il nous voit comme des saints, sans défaut, sans reproche. Il nous voit à travers Jésus, pas à cause de nos mérites, à cause de ses mérites. Et là, si on se présentait aujourd'hui là, devant... aux portes du ciel et qu'un ange nous demande « Mais pour quelle raison je devrais te laisser rentrer? » Mais non, moi, je ne mérite pas de rentrer. Mais Jésus l'a mérité pour moi. C'est de sa faute. Puis, s'il a payé 100% de mes fautes, combien de pourcents qu'il me reste à payer? Est-ce que vous allez me faire payer une deuxième fois ce que Jésus a bien payé? Non. C'est payé, c'est payé. Fait que moi, je peux rentrer, sans défaut, sont payés, sans reproche, sont payés, comme des saints, à cause de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, parce qu'il y avait un danger pour ces Colossiens-là de partir sur une balloune. Ben c'est vrai, il y a d'autres idées aussi, puis Jésus, ça va être bon, oui, mais on va viser... justement, peut-être le nirvana, peut-être la conscience cosmique, peut-être quelque chose d'autre, d'encore plus meilleur. Mais Non, si tu passes à d'autres choses, ou si Jésus n'est qu'un prophète, n'est qu'un homme, non, ça ne marche pas. Car vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas qui je suis ou ce que je suis. Et si je dévie en disant, tu sais, oui, moi, Jésus, je l'accepte, il a payé pour mes fautes, mais là, je dois travailler encore pour être un bon chrétien, je dois mériter qu'il continue à m'aimer. Mais là, non, c'est toi, c'est par tes mérites. Donc, il y avait toujours pour eux, dit, détournez-vous pas de ça, là. Puis je sais qu'il y a beaucoup de tentations, mais laissez-vous pas. Parce que peut-être que vous, vous allez persévérer, puis ça va marcher, bien, bravo. Mais pense à tes enfants aussi, qui vont être emportés par ces autres doctrines-là. Non, non. Les autres, si tu commences à penser à d'autres choses, puis tu perds cette base-là de vérité, t'as plus de... C'est comme ils donnent un parachute, tu sais, pour être sauvé, mais là, t'as enlevé ton parachute. Tu l'as mis là, il est pas loin. Mais la tragédie arrive. Là, tout le monde dit, OK, saute avec le parachute qu'on vous a... Ah, ben là, t'as une minute, je vais aller mettre mon parachute. Non, trop tard. Si tu délaisses ces vérités-là, tu délaisses l'essentiel du christianisme. On prie. Seigneur, on veut te prier pour te remercier. Tu es tellement beau et grand et ça dépasse notre compréhension qu'un Dieu parfait, majestueux ait pu penser à nous, ait pu nous aimer. Et puis avoir compassion, c'est comme ça qu'il y a compassion et qu'il est miséricordieux, c'est en envoyant Jésus. Et on veut te louer, t'adorer, élever ton nom, te célébrer. Et donne-nous de rester attachés fermement à ces doctrines, à ces enseignements, et de les faire connaître, Seigneur. Il n'y a rien de trop beau qu'on peut se faire pour Jésus. Il n'y a pas de sacrifice trop exigeant, trop coûteux. Il mérite toute la gloire. Il mérite toute notre énergie, notre honneur. Et donne-nous la grâce, Seigneur, de brûler pour toi. On te prie dans le nom de Jésus. Amen.